www.radio-g.fr.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les ondes de Radio G au 101.5 FM. Pour ce 34e opus de l'émission de Radio Nippon, nous allons pouvoir vous faire découvrir toujours un peu plus cette culture japonaise qui nous passionne et vous faire voyager en continuant l'interview de Paul Gomer, un expatrié français revenu en France après 10 ans de vie au Japon. Si vous avez loupé le précédent épisode de Radio Nippon, vous pourrez bien évidemment le retrouver en podcast sur le site de la radio www.radio-g.fr. Et vous pourrez probablement retrouver à partir de cet été l'interview en intégralité sur la chaîne YouTube de l'association. Nous n'oublierons pas de vous tenir informés des actualités autour de la culture japonaise en Anjou. Et bien évidemment, nous retrouverons une fois de plus Victoria qui nous agrémentera l'émission d'une petite pause musicale. Tout de suite, sans plus tarder, arrivons sur les actualités. Pour ces 15 prochains jours, nous allons pouvoir vous parler de 3 actualités. D'abord, commençons par Angers. Le 5 mars et le 12 mars prochains, le bar Le Level Up, situé 25 rue Bodigné, organise un tournoi d'abord de Mario Kart, puis un tournoi de Super Smash Bros. Deux jeux extrêmement connus et populaires au Japon. N'hésitez donc surtout pas à essayer de vous renseigner sur Le Level Up afin de pouvoir réserver vos places. Ensuite, continuons un petit peu aux alentours d'Angers avec Molévrier. Le parc de Molévrier, le 15 mars prochain, réouvrira enfin ses portes après sa trêve hivernale. Vous pourrez ainsi profiter du parc de Molévrier, qui est le plus grand parc oriental d'Europe. Vous pourrez en plus admirer tous les arbres en fleurs, et notamment les cerisiers en fleurs, pour pouvoir profiter d'un petit hanami en cette fin mars. N'hésitez surtout pas à retrouver toutes les informations sur le site du parc oriental de Molévrier. Enfin, pour terminer, allons à Nantes, chez nos amis de l'AJFJ, Association France Jeunesse Japon. En effet, ce 7 mars prochain, de 14h à 16h, ils y organiseront une initiation à la calligraphie. Vous retrouverez toutes les informations et surtout vous pourrez faire vos réservations sur leur site, sur le site de l'AJFJ, Association France Jeunesse Japon. L'AJFJ se situe 75 rue Allonville à Nantes. Et j'en ai terminé pour les actualités de ces 15 prochains jours. Avis à tous nos auditeurs et auditrices, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message ou vos réactions à l'adresse mail de l'émission radionippon1@gmail.com. Et tout de suite, je laisse la parole à David qui va pouvoir continuer Mangalu.
Salut à tous, c'est David et c'est maintenant moi qui vais prendre la suite de l'émission avec ma chronique manga. Cette chronique a pour but de présenter, de parler de l'événement Mangalu et de vous présenter, chers auditeurs, les mangas de la sélection pour l'événement Mangalu. Pour les auditeurs qui découvrent cette chronique, je vous invite à réécouter en podcast sur le site de l'émission de Radio G. Pour faire simple, qu'est-ce que Mangalu ? Donc, c'est un événement qui est destiné aux collégiens et qui a pour but de leur faire découvrir la diversité des mangas. Un comité de lecture a sélectionné 9 premiers tomes sortis entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019, adaptés aux lecteurs collégiens. Le prix est lancé depuis le 15 octobre 2019 et se terminera à la mi-mars 2020. Pour se faire, c'est simple, il faut être collégien et lire les 9 mangas sélectionnés. Ensuite, un petit bulletin de vote rapide est à remplir après chaque lecture pour donner votre avis sur chacun des mangas. Pour avoir accès à la sélection, vous pouvez vous rendre dans les collèges participants à l'opération ou au sein de certaines bibliothèques du Maine-et-Loire ou encore aller directement à la librairie du manga. Après la remontée de tous les bulletins de vote, nous aurons 3 lauréats pour l'année scolaire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a 3 catégories dans cette sélection, Shonen, Seinen et Shoujo. Et pour vous, chers auditeurs, en fait, on vous propose voilà une série d'émissions qui présentent par émission un manga. Je reviens à ma petite chronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un manga donc de la sélection Shoujo. Shoujo, pour rappel, c'est en gros les mangas pour les jeunes demoiselles en fleurs, plutôt des mangas sur des histoires d'amour. C'est un manga qui s'appelle Stand By Me Love Letters, avec mon super accent anglais, Stand by me love letters. Voilà. Je vous fais un petit résumé. Juste avant les vacances d'été, Azuki reçoit une surprise de Tai sous la forme d'une lettre d'amour. Un camarade de lycée qu'elle ne connaît même pas est tombé sous son charme. Malgré ça, la jeune fille n'a pas l'intention de sortir avec ce garçon dont elle ignore tout jusqu'au nom. Malgré tout, touchée par sa sincérité, elle finit par accepter de le fréquenter. D'abord en tant qu'amie. Trois petits points. Bon voilà, on se doute que ça va évoluer. Enfin, ensuite, pour les détails de ce manga, ça a été écrit par la mangaka Matsuda Ryo. C'est édité chez Akata. Donc c'est un one-shot style shoujo, du genre tranche de vie, romance. Et c'est sorti en 2007. Je vais maintenant vous donner mon avis sur ce manga. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas un fan de shoujo. Hein. À chaque fois, j'essaie de laisser ça de côté et de lire ça de manière neutre. Pour commencer, je vais vous faire une petite description du manga. Nous retrouvons donc en première page de ce manga une illustration couleur de l'héroïne Azuki assise sur un muret avec en fond et en arrière-plan la mer. Avec le ciel, ça doit être en été, je pense, vu comment elle est habillée et vu les couleurs. Elle regarde au loin et elle a une lettre dans les mains. Sûrement la lettre dont je vous ai parlé dans le résumé du garçon qui lui déclare sa flamme. Belle illustration. Elle a même les larmes aux yeux. Et puis derrière, on voit donc le résumé du manga et on voit les deux jeunes adolescents qui mangent une glace. Au niveau du dessin, ouais, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est simple, c'est très bien détaillé. Voilà, il y a chaque personnage est différent, à ses propres, à son propre design, on va dire. Enfin, ce que je trouve aussi bien, c'est les arrière-plans qui sont très bien détaillés. En fait, on suit l'histoire à travers différentes saisons, donc ça se remarque bien dans les arrière-plans. Après, au niveau de la découpe des cases, moi, je suis un peu perdu. Des fois, j'ai du mal à suivre le fil de l'histoire. Au niveau des textes, c'est pareil. Vu qu'il y a souvent des cases, des bulles, voilà, de texte, des choses qu'elle dit et des choses qu'elle pense. Des fois, c'est un peu fouillis, je trouve. Enfin, pour moi, je suis peut-être pas habitué à lire ce genre de manga, c'est pour ça. Au niveau de l'histoire, bah, bon, c'est une histoire d'amour, hein, d'adolescent. C'est mignon et émouvant. Ça se lit bien, voilà. Après, que ce soit en one shot, c'est pas plus mal. Et puis voilà, ce que je trouvais sympa aussi au niveau de l'histoire, c'est que c'est axé autour des saisons. On arrive à se projeter en fait en termes de temps qui mettent à se déclarer leur flamme. Voilà, c'est sur une année scolaire, donc ça c'est sympa aussi. Et puis on découvre aussi la vie des collégiens japonais au-delà de l'histoire d'amour. On peut les suivre chacun dans leur quotidien et comme je disais tout à l'heure, hein, au niveau des arrière-plans, voilà, on voit les collèges, on voit les combini, enfin les supérettes, les saisons, les feux d'artifice, etc. C'est plutôt sympa. Voilà un petit peu pour de ce que j'en ai pensé. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Je vais laisser la suite à mes petits camarades et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique manga. Salut.
Et pour cette pause musicale, je vais vous parler de Asuka, de son vrai nom Okura Asuka, une chanteuse japonaise ayant débuté en 2012 et que vous avez pu retrouver assez souvent dans les animés récents. En effet, elle a réalisé les génériques de Fate Apocrypha, Sword Art Online et actuellement celui de Darwin's Game. Ce dernier nouveau survival game de la saison renouvelle le genre avec une mise en place du jeu plus actuelle. En effet, c'est via l'application pour portable Darwin's Game que l'on y prend part. Si cela semble n'être qu'une application de mauvais goût, Kaname, le héros, découvrira bien vite qu'il s'agit là d'un jeu où la ville devient l'arène de duel à mort. Pris dans le jeu malgré lui, il va donc devoir tenter de survivre grâce à des coéquipiers de confiance. Sans plus tarder, écoutons donc l'opening de Darwin's Game, Chain, par Asuka.
Ruleを傾いて進んでいく踊り今後で落ちる希望の限りさ剣さんいない記事をぬくろんじゃ不公平な視線を全身洗礼コパステル決められたルールを頼むで進んでいけこの枕で夜を切り取って悪い夢から覚めといたら果てしない旅路を Revenez plus sur ta démarche de trouver une entreprise. Est-ce que quand tu as voulu trouver une entreprise, tu t'es d'abord focalisé sur les entreprises internationales ou est-ce que tu as aussi démarché des entreprises japonaises? Et si oui, est-ce que tu l'as fait de manière différente?
J'ai commencé par démarcher quelques entreprises japonaises parce que au cours de l'échange, on nous forme un peu à ces démarches.
J'imagine qu'il y a le moule de l'entreprise, enfin de la faculté de Meiji te force peut-être à faire ça. Enfin, pas te forcer, mais te suggère un peu ça.
Ils nous forcent pas, mais ils nous donnent des pistes. Et c'est souvent les mêmes pistes qu'ils donneraient à leurs propres étudiants japonais.
D'accord.
Et les étudiants japonais en troisième année d'université, donc l'université dure 4 ans, en troisième année, ils font ce qu'on appelle le shukatsu. Et le shukatsu, c'est toute cette recherche active d'emploi qui se passe de manière très très formelle, où on a une armée de jeunes de 20 ans habillés en noir et blanc en costume, qui vont dans des espèces de grandes salles de palais des congrès avec des centaines d'entreprises qui font passer des entretiens. Le process du shukatsu, ça fonctionne dans le contexte à la japonaise. C'est-à-dire que les grands groupes japonais, ce qu'ils recherchent, c'est des talents à former. Quel que soit le cursus, d'ailleurs, parce que moi, j'avais rencontré des gens qui ont fait de la linguistique espagnole et qui sont rentrés en banque d'investissement pour devenir trader, parce que la formation se fait en interne. C'est la sélection de bons profils avec du potentiel une fois la formation en interne terminée.
Moi, j'ai une toute autre question pour parler un petit peu de notre sujet. En ce qui concerne la langue japonaise, est-ce que pour tout ce qui est visa travail, il y a un niveau de langue en fait exigé ou pas du tout?
Pour le visa de travail, non. Il n'y a pas de niveau exigé. Tout ce qui compte pour obtenir un visa de travail, c'est d'avoir fait des études ou d'avoir une expérience professionnelle dans cette catégorie-là.
D'accord.
Donc si on parle du... alors, je ne me souviens jamais des termes exacts, mais c'est visa in humanities ou quelque chose comme ça. Généralement, c'est le visa de travail que la plupart des personnes ont quand ils intègrent une entreprise pour bosser en marketing, en recherche ou n'importe quoi. Faut avoir au moins un bac plus 3 dans ce domaine-là.
D'accord.
Ou justifier de 10 ans d'expérience dans le domaine.
D'accord.
Mais il n'y a pas du tout de critère de niveau de japonais, parce que sinon, tu as la moitié des expatriés de Tokyo qui repartiraient direct.
Ouais, d'accord, ok. Mais par exemple, pour obtenir ton COI, l'entreprise peut peut-être te demander d'avoir un certain niveau, pas du tout, c'est peut-être entreprise dépendant en fait.
C'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, la question du COI, elle est un peu annexe, parce que certes, c'est le sésame, mais à partir du moment où une entreprise vous embauchez...
En fait, c'est surtout l'entreprise, le sésame,
voilà,
c'est elle qui
elle
fait
va faire
derrière.
Les démarches pour le faire.
Mais même si on a abordé cette fameuse système-là à la fin d'études avec les étudiants de 20 ans qui vont faire cette sorte d'usine à entretien d'embauche, comment se passe un entretien d'embauche si ça existe au Japon? Comment on fait pour aller voir une entreprise, réussir à la séduire pour déclencher un entretien d'embauche ou déclencher justement cette envie de t'embaucher? Tu fais comment?
Je déconseille en tant qu'étranger de faire ce que font les Japonais, parce qu'on se tire une balle dans le pied dès le départ, on n'arrive pas avec les mêmes armes, et donc pour un étranger de participer à ces grandes sessions de Shukatsu, c'est pas la meilleure solution à mon avis pour trouver un job dans lequel ils vont s'épanouir. La plupart du temps, les entretiens se passent de manière assez similaire à ce qu'on peut trouver en France. On va approcher une entreprise soit directement, soit par l'intermédiaire de recruteurs. Et après, il y a tout un... plusieurs rounds d'entretiens qui sont organisés avec le manager de l'équipe, avec les RH, avec le big boss et ainsi de suite. La plus grosse différence, je dirais, c'est sur le contenu des questions et de l'entretien en lui-même, où en Occident, en France, on va plus chercher à voir un petit peu à tester l'esprit d'initiative, de prise de décision d'un candidat, souvent. Alors qu'au Japon, d'expérience, les entretiens vont plus porter sur la capacité de mettre en place, d'appliquer des décisions, d'appliquer des process et de suivre un peu la ligne directrice de l'entreprise.
Et du coup, autre question que je me posais, du fait que tu es donc là-bas, tu es un gaijin, est-ce que ça t'a posé problème d'être un gaijin vis-à-vis donc de ta structure pour passer des commandes, embaucher de nouvelles personnes, dans la vie de tous les jours même, parce
ouais,
que bon,
même dans la vie de tous les jours,
les gaijin sont parfois un petit peu je vais dire rejeté, parce qu'il me semble qu'il y a ça. Et enfin, dernière question qui s'incrémente par-dessus, est-ce que même 10 ans après être arrivé et être devenu un gaijin, tu as senti une différence de comportement vis-à-vis vis-à-vis de toi ou pas?
Non, je peux pas dire que j'ai ressenti du rejet ou même de gêne dans le fait d'être étranger au Japon. Et je pense que même après quelques années, j'en ai fait une force, parce que c'est aussi un élément différenciant. Mais j'ai toujours habité à Tokyo, et en règle générale, il y a quand même beaucoup d'étrangers à Tokyo, de plus en plus. Et donc c'est pas rare pour les Japonais d'interagir, de dialoguer avec des étrangers.
Est-ce que comme t'es resté quand même 10 ans là-bas, est-ce que t'as vu toi une évolution de la société japonaise par rapport à ça sur les 10 ans que t'as passé là-bas?
Oui, plus au niveau de la langue, je dirais, parce que quand je suis arrivé, la pratique de l'anglais par les Japonais était encore très limitée. Mmh. Et depuis,
là, c'est quand même vachement mieux.
Ouais,
enfin,
depuis quelques années, ça s'est beaucoup amélioré. Je pense que d'abord, ça a été motivé par le boom du tourisme il y a quelques années, parce que le Cool Japan et toutes les actions que le gouvernement a mis en place pour attirer plus de touristes, et encore plus par les événements sportifs récents avec la Coupe du Monde de rugby, avec les Jeux Olympiques qui arrivent là dans 6 mois, et maintenant c'est pas rare de voir des traductions en simultané avec du japonais et de l'anglais dans des restaurants ou les hôtels ou tout ça.
Clairement,
après,
ouais.
Au niveau de la pratique de l'anglais au quotidien, c'est pas encore ça par la population japonaise. Ça va peut-être venir un jour s'ils améliorent la façon d'enseigner. Mais pour revenir à la question, non, j'ai jamais eu de soucis au niveau d'être étranger. J'ai toujours été très bien accepté. J'ai eu la chance d'être accepté par des familles japonaises, par des amis et puis par ma belle famille plus tard. Et au niveau de la création d'entreprise, à partir du moment où, encore une fois, on rentre dans les clous et on rentre dans les cases des papiers administratifs, tout se passe bien. Les histoires de racisme direct, c'est plutôt des cas très très particuliers. Et si on peut ressentir la différence, cette espèce de fracture entre Japonais et étrangers, c'est plus sur des choses du quotidien comme ça. Tu mentionnais le logement. Clairement, là-dessus, ça peut être un souci, parce qu'il y aura toujours un petit peu plus de suspicion de louer un logement à un étranger, parce que ben, on ne sait pas s'il va partir, on ne sait pas s'il va rester, s'il va payer. Donc c'est toujours un peu plus compliqué. Déjà que de base, la question du logement,
ouais,
c'est très compliqué. Quand on est étranger, on se rajoute une petite difficulté supplémentaire. Ça peut être au niveau de la communication dans certains échanges avec des Japonais, parce qu'il y a une différence de langage, et il y en a certains qui vont faire l'effort de s'adapter et d'autres qui ne vont pas vouloir le faire. Et donc là, ça peut être ressenti un petit peu différemment aussi. Mais je pense que ces questions-là, c'est plus au niveau du ressenti personnel en tant qu'étranger et de la manière dont on reçoit ces interactions. Les Japonais sont très forts de leur culture, sont très forts de leur histoire, de leur patrimoine, et on souvent des manières assez maladroites de le transmettre et de le dire. Et ça, ça peut être ressenti comme une agression en tant qu'étranger, alors que c'était pas l'idée de base, forcément. Je pense que beaucoup d'étrangers passent par différentes périodes là-dessus quand ils s'installent au Japon, avec au tout départ la volonté de s'intégrer totalement et de devenir, pour certains, même plus japonais que les japonais. Ça, c'est cause perdue. Et une fois cette phase passée, il y a un peu l'affirmation de son identité propre qui apparaît, et c'est de ça dont on peut tirer une force, justement, parce que c'est ça qui nous différencie du reste de la population.
D'ailleurs, tu parles d'affirmer son identité, c'est donc, du coup, t'as un peu affirmé, je suppose, le côté français ou ton identité personnelle, et si t'as affirmé ton côté français, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui t'a manqué en France quand t'étais là-bas?
Le fromage
Ouais, le fromage, c'est une grande partie. Enfin, moi, je suis normand, je suis né à Camembert, donc quasiment, donc ça m'a beaucoup manqué. L'identité, l'affirmation de son identité, oui, ça passe français ou pas, mais le fait d'être différent, voilà, tout simplement. Français, oui, essayer de gommer son accent, quand on ne peut pas gommer son accent, c'est une chose. Et puis, oui, il fait différentes choses comme ça. Et donc, pour répondre à ta question, oui, ce qui m'a manqué le plus, c'était, au bout d'un moment, c'était la famille, bien sûr, les amis, la famille et la nourriture. Clairement.
La nourriture, parce que même si la nourriture japonaise est hyper bonne, c'est pas la même chose, quoi.
Non, et puis on a envie de diversité aussi, des fois, donc.
Ça vaut pas payer, du prix en fromage au supermarché.
Payer son camembert 20 €, ça va de temps en temps.
Ouais, tu le fais une fois, quoi. Ouais, c'est voilà. Un plaisir, quoi, limite.
Quatrième anniversaire.
Et puis tu vois qu'il est
un petit camembert pour toi.
Ah bah chaque Noël c'était camembert.
Ah ouais, pour les occasions, quoi.
Et franchement, ça doit vraiment te déprimer quand tu vois qu'il y a un seul repas. Ting 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 ting. Au revoir camembert.
Mais c'est ça aussi qui fait l'expérience de vivre à l'étranger, c'est qu'on n'est pas censé vivre de la même manière qu'on vivrait au pays. Et se retrouver avec des Français autour d'une bonne baguette et d'un bon camembert, et ben ça fait partie aussi des plaisirs en étant
étranger.
Moi,
j'ai une petite question. Est-ce que tu avais des petites adresses où trouver du bon pain, des chocolatines, parce que moi, je viens de Toulouse, des choses comme ça. Est-ce que tu as eu des épiceries, des choses comme ça, où tu pouvais trouver des produits un peu régionaux pour te réconforter un petit peu?
Alors, vrai, mais étant à Angers, on va être obligé de gommer chocolatine, mais
non,
pain au chocolat.
Non, je suis désolée. je refuse de dire pain au truc. Voilà.
Vas-y. Je t'apprends.
L'avantage principal de vivre dans une ville comme Tokyo, c'est qu'on trouve tout.
Ouais.
Mais vraiment de tout. À partir du moment où on a les moyens de se procurer de ce tout, c'est possible. Donc, bien sûr, il y a des épiceries qui font les produits les plus rares et les meilleurs. C'est pas forcément compliqué de trouver du vrai camembert français, mais il y a un prix, donc il faut après le payer. Après, au niveau des boulangeries, il y a la boulangerie japonaise et la boulangerie française qui ont le même nom, mais qui sont pas forcément les mêmes choses. Et au niveau française, oui, il y a des adresses qui sont très sympas. Il y en a une à Shibuya qui s'appelle Viron, qui a une baguette un petit peu plus chère que la normale, mais qui fait des très bonne chose. On peut manger des très très bonnes galettes des rois. Il faut juste être prêt à payer 30 € pour la petite galette. Mais souvent, c'est des bons produits.
Après, il restait une petite partie à évoquer sur le monde du travail. Ouais. Donc, savoir un petit peu si, justement, pour parler des syndicats, est-ce qu'il y a des syndicats au Japon et est-ce qu'il y a un droit du travail au Japon existant ou un peu protecteur, si oui, dans quelles conditions, SMIC, temps de travail horaire et autres, ou pas du tout, je sais pas du tout dans quoi je m'aventure.
Alors, les syndicats, clairement, c'est pas ma spécialité, donc je peux pas partager grand chose dessus. Je sais qu'il existe des syndicats et je sais que la manière dont ils fonctionnent est totalement opposée à la manière dont fonctionnent les syndicats en France. Tout se passe beaucoup plus en sous-marin. Les négociations sont plus secrètes. Il n'y a pas vraiment de grosses manifestations dans les rues. Ça, j'ai jamais vu ça. Ou alors, peut-être une fois, c'était pour motif politique. Et les syndicats sont, comme en France, j'imagine, très proches du pouvoir. Et donc, il y a beaucoup d'imbrications comme ça. Mais ça se manifeste pas forcément au quotidien pour les salariés. Je peux pas en dire beaucoup plus.
Mais après, tout ce qui est justement droit du travail et temps de travail, existence de SMIC ou pas, parce que je sais pas si tu peux te faire embaucher au Japon pour une bouchée de pain.
Tu peux. Comme partout, tu peux. Tu peux, ça s'appelle un baito. Je sais pas si vous connaissez le terme de baito, mais c'est l'équivalent des petits jobs. Chez nous, c'est ce que font beaucoup les étudiants, c'est ce que font beaucoup les personnes âgées, parce que les retraites sont quand même très minces au Japon, et on voit beaucoup de personnes âgées, de plus en plus d'ailleurs, qui travaillent dans les combini, qui font la circulation sur les chantiers, ou qui gardent des portes, ou qui gardent un cône en plastique plastique par terre parce que ça permet de leur fournir un petit moyen de survivre. Et donc ces baïtos sont rémunérés, ça dépend des préfectures. À Tokyo c'est un petit peu plus, c'est autour de 1000 yens de l'heure. En dehors de Tokyo, ça peut descendre jusqu'à 750-800 yens de l'heure, donc ça fait vraiment très peu, hein, c'est 6-7 euros de l'heure. Et ça, c'est l'équivalent du SMIC, c'est le salaire minimum. Au niveau du salaire moyen, je regardais parce que j'étais pas sûr, je regardais récemment, et ça tourne à Tokyo autour de 4 millions de yens, toutes catégories confondues, autour de 4 millions de yens par an, ce qui fait à peu près 33 000 euros.
Moi j'ai une question aussi, parce qu'on parle argent tout ça, tes impôts, tu les payes en France ?
Non.
En Japon ? Comment ça s'est passé ?
Alors, c'est compliqué quand on est étranger, ça dépend de son statut et de son contrat. Pour refaire un peu l'histoire, mon tout premier job, donc quand j'étais recruteur, j'étais embauché par la filiale japonaise d'une boîte américaine.
D'accord.
Donc je payais mes impôts au Japon. Quand je suis rentré chez Babola, boîte française, j'ai eu la chance de le faire sous format VIE. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est volontariat international en entreprise où c'est le ministère, un ministère français, je ne sais plus lequel d'ailleurs, qui paye des jeunes, donc c'est moins de 30 ans, pour travailler entre 1 et 2 ans dans des entreprises françaises à l'étranger.
Et là, pour le coup, comme c'est une administration française qui te paye, tu payes tes impôts en France.
Et là, pour le coup, j'ai dû payer mes impôts en France parce que j'étais payé par la France. Et j'ai dû me lancer dans une bataille avec l'administration japonaise pour arrêter de les payer au Japon. Parce que c'était facile de rentrer dans le système et c'était très difficile d'en sortir. Et le truc marrant ou moins marrant, c'est qu'à la fin de mon VIE, je suis resté dans la même boîte, mais embauché en local, en contrat local. Donc j'ai dû refaire le chemin inverse. Et c'était affreux. Et donc après ça, c'est là où j'ai monté ma boîte. Et là, je suis encore passé sur un autre système différent parce que cette fois, j'étais chef d'entreprise et non plus salarié avec une imposition différente.
Et donc du coup, pour clôturer un petit peu toute cette interview, donc je te laisse reprendre, Fanny.
Puisque tu m'avais coupé méchamment.
Je suis navrée.
Bon, je disais, si jamais tu avais en face de toi quelqu'un qui avait envie, qui avait pour rêve de partir au Japon, quelles sont les clés que tu pourrais lui donner Là, je pense que tu as un auditoire qui est tout ouïe.
Le premier conseil que je donnerais, c'est d'essayer de passer l'étape qui peut être bloquante de planification et de se jeter dans le grand bain. Alors bien sûr, il y a toujours des critères, notamment le critère financier, parce que le Japon, c'est pas le pays limitrophe de la France, donc il y a toujours du transport à prendre en compte. Mais je pense que le gros avantage qu'on a maintenant, comparé à il y a 10-20 ans, c'est la facilité d'accès à différents moyens d'aller au Japon. On parlait tout à l'heure d'échange universitaire. Si vous êtes encore étudiant, c'est la première chose à faire, c'est de vérifier s'il n'y a pas des protocoles d'échange qui sont mis en place avec des universités au Japon. Parce que ça, c'est la meilleure situation. Vous êtes encadré, vous êtes accueilli, vous êtes. Et puis c'est super. C'est une super expérience. Si vous n'êtes pas étudiant, mais que vous avez déjà une certaine expérience professionnelle, c'est toujours possible de faire des démarches pour trouver un stage dans une entreprise au Japon, qu'elle soit japonaise ou étrangère, mais en tout cas localisée là-bas. Je disais tout à l'heure, c'était très compliqué il y a encore quelques années de trouver un stage parce que le concept en lui-même n'existait pas. Mais maintenant, il y a des entreprises spécialisées qui se sont créées pour aider les gens à trouver des stages. Donc, elles vont placer des stagiaires dans des entreprises parce qu'il y a juste un besoin de main-d'œuvre très important. Si on n'a pas envie de travailler, il y a aussi d'autres choses dont on ne parle pas souvent, mais ne serait-ce que pour améliorer son japonais, c'est possible de partir en visa de touriste et de prendre des cours gratuitement de japonais sur place, parce que la majorité des mairies de quartier et des préfectures donnent des cours de japonais gratuitement. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être un très bon moyen de se mettre en immersion et d'apprendre le japonais en même temps. Et si on est vraiment très limite au niveau du budget, il y a aussi d'autres solutions qui existent, qu'on ne connaît pas encore une fois forcément, qui permettent de se faire héberger gratuitement et nourrir gratuitement. Je ne sais pas si vous connaissez le WOOF, c'est un programme international de bénévolat dans des fermes organiques qui permettent de rester jusqu'à 3 mois, parce que ça se fait sur un visa de touriste, et de travailler dans une ferme, donc souvent c'est dans la campagne, de manière bénévole, donc on ne reçoit pas d'argent, mais en échange on reçoit le gîte et le couvert de la famille japonaise chez laquelle on travaille. Et ça, c'est un super moyen de se mettre en immersion, de voir si on adhère à la culture japonaise, de rencontrer du monde, parce que souvent, les volontaires, il y en a quelques-uns, et ils viennent d'ailleurs aussi, soit de l'étranger, soit du Japon. Et même si on ne peut pas partir, eh ben, y a Internet qui existe, et il y a beaucoup, beaucoup de moyens de commencer à rencontrer du monde, à se créer des contacts via Internet. Et c'est comme ça, en créant ces petites connexions, que ça va aboutir sur d'autres connexions. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu cet effet amplificateur qui fait qu'au final, ça peut aboutir sur des belles opportunités. Donc, c'est mon conseil principal, c'est
provoquer
de se lancer, de provoquer sa chance, d'être optimiste, parce que quand on est expatrié, c'est une très belle expérience, il peut y avoir des soucis qui apparaissent aussi, mais il faut savoir les surmonter, parce qu'au final, tout se passe bien.
D'accord, bah en tout cas, bah je te remercie énormément, Paul, pour ce partage d'expérience et donc pour toute cette interview que l'on vient de faire. On se retrouve dans 2 semaines, même jour, même heure, sur Radio Nippon.